Okay, on va continuer notre étude sur les survols des livres de la Bible. On en est rendu au livre de Deux Rois. Alors, comme on le fait toujours depuis le début de notre série, la première leçon, on fait toujours la même chose. On fait un survol très rapide, on regarde les différents éléments du livre. Donc, on regarde toujours l'arrière-plan du livre, le but principal du livre, son plan, les thèmes majeurs. Il y a toujours des thèmes majeurs à l'intérieur de chaque livre. Il y a toujours des personnages clés, des versets, on pourrait dire que des versets clés. Et il y a toujours des leçons pour le peuple de Dieu de l'époque, pour le peuple d'Israël. Et aussi, on peut s'appliquer certains principes, des leçons pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Et on a toujours regardé dans l'ensemble des leçons jusqu'ici la place et la présence de Jésus-Christ à l'intérieur du livre de Deux Rois. Donc, on va commencer par l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan, l'auteur, la tradition juive, attribue au prophète Jérémie d'avoir écrit Deux Rois. Ce qu'on sait, ces affaires-là, ceux qui ont étudié les livres comme ça, c'est basé sur des traditions. Il n'y a pas personne qui peut dire avec certitude que c'est ça, mais on pense que ça a du bon sens. Donc, la date de composition et la période historique, c'est la composition des livres des rois qui ont été complétés durant la captivité babylonienne. On sait que le peuple d'Israël, éventuellement, Dieu les a jugés, les a envoyés à Babylone pendant 70 ans pour les punir de leur idolâtrie. Donc, à l'intérieur du chapitre 1 à 17 de Deux Rois, ça couvre une période de 131 ans. Alors, vous avez là 853 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 722 avant Jésus-Christ, lors de la chute de la Samarie et la captivité en Assyrie. Et les chapitres 18 et 25 parlent d'une autre période de 155 ans, qui va du règne d'Ézéchias en 715 avant Jésus-Christ jusqu'au règne de Josaphat qui fut transporté à Babylone en 560 avant Jésus-Christ. Donc le royaume d'Israël et de Juda, on sait que le royaume a été uni pendant un certain temps, mais Dieu a permis que le royaume soit divisé entre le royaume du nord, qui étaient les 10 tribus, et le royaume du sud, qui était Juda, qui n'ont pas eu la même histoire. Quand vous regardez un petit peu toute l'histoire du peuple d'Israël, les tribus du nord ont toujours été, sont allées plus vite en captivité que les tribus de Juda. Ceux du sud ont toujours été plus forts que ceux du nord. Mais ils ont toujours fini par s'en aller eux aussi. Alors, il y a eu la période de l'unité, donc qui était la période où Israël et Juda étaient ensemble, qui avait duré 112 ans, de 1043 à 931 avant Jésus-Christ. Il y a eu la période ensuite du règne d'Israël, après le schisme, donc il y a eu la division. On sait qu'il y a eu éventuellement la division. Et le schisme, c'est vraiment, ça veut dire division, qui a duré 209 ans, la période du règne d'Israël, 209 ans, de 931 à 722 avant Jésus-Christ. Donc, c'est durant cette période-là qu'Israël a été déporté en Assyrie. Donc, quand vous regardez les deux histoires, ils ont quelque chose de commun. Il y en a un qui a été déporté en Assyrie, l'autre a été déporté à Babylone. Alors, la période du règne de Juda, donc ça, c'est celui, le royaume du sud, il a duré, lui, 345 ans après la division, et il a duré de 931 à 586. C'est important dans l'Ancien Testament, quand on réussit à garder en tête les dates, comme les dates de déportation. C'est très important pour comprendre les rois, tout ce qui se passe, les prophètes, qu'on les situe par rapport à ça. C'est des prophètes qui soient soit avant, soit après. Et le discours du prophète, où l'histoire va changer dépendamment de cela. Alors, durant cette période, le livre des Deux Rois couvre une période de 457 ans, donc de 1043 à 586 avant Jésus-Christ. Donc, quand on regarde le tableau, Judas a été déporté à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Et la déportation de Judas a été faite 136 ans après celle d'Israël. Pourquoi? La cause, c'est qu'eux, ils ont eu quelques bons rois. Tous les rois d'Israël étaient des idolâtres, étaient des mauvais rois, et ça s'est reflété dans leur histoire politique, militaire, mais aussi dans leur histoire spirituelle. Donc, durant cette période de 457 ans, d'importants changements survinrent dans les puissances politiques de l'époque. L'Assyrie s'éleva, puis déclina. L'Assyrie fut finalement conquise par Babylone, qui devint la puissance dominante de l'époque. L'Éternel utilise ses puissances pour châtier son peuple. C'est très important de réaliser ça, parce que le Seigneur fait encore la même chose aujourd'hui. Le Seigneur utilise les puissances pour châtier son peuple. Alors, le cadre de l'histoire de deux rois. Le deuxième livre des rois retrace l'histoire du royaume, le royaume divisé d'Israël et de Juda, dans les chapitres 1 à 17, suivi de l'histoire du royaume qui lui survécut, donc Juda, qui va des chapitres 18 à 25. La narration peut être difficile à suivre à cause du fait que l'auteur passe rapidement et successivement d'un royaume à l'autre. Celui du royaume du nord et celui du royaume du sud. Alors, le livre est plus qu'une compilation des principaux événements politiques et sociaux d'Israël et de Juda. Le livre de deux rois est sélectif dans cette histoire écrite parce qu'il le fait dans un but théologique. Bien important de garder ça à l'esprit quand on lit ce livre-là. Il y a des leçons théologiques que le Seigneur est en train d'enseigner à son peuple à l'intérieur de ça. Donc, l'auteur choisit et met l'emphase sur les personnes et les événements qui sont moralement et religieusement significatifs. Cela enseigne comment le déclin et la division du royaume arriva. Nous apprenons que l'échec est dû à cause de la désobéissance des dirigeants des deux royaumes et à cause du peuple qui négligea de tenir compte des avertissements des messagers de Dieu. Alors, le climat spirituel de la nation détermine ses conditions économiques et politiques. Alors, le livre est écrit pour nous expliquer comment les deux royaumes finirent par l'exil et la déportation. Autrement dit, ça a été l'Assyrie pour Israël, le royaume du Nord, et Babylone pour Juda, le royaume du Sud. Et il y a une petite différence dans les années, et la raison pour laquelle ils sont allés plus tard, c'est juste parce qu'il y a eu une coupe de rois qui était bon. Et là, une des leçons qu'il nous apprend là-dedans, c'est que de la manière dont on est dirigé, c'est ça qui finit par se refléter dans la spiritualité du peuple. Comme ici, au Canada, on a des dirigeants qui finissent par influencer tout ce qui se passe dans la vie de l'ensemble de la nation. Et c'était exactement la même chose à l'époque aussi. Donc, Deux Rois, le livre de Deux Rois, présente Dieu comme le contrôleur de l'histoire, qui révèle son plan et son but pour son peuple. Dieu contrôle les affaires humaines et ceux qui obéissent au Seigneur jouissent de ses bénédictions, tandis que ceux qui lui désobéissent goûtent à sa discipline et à ses châtiments. Les prophètes de Dieu jouent un rôle déterminant dans les livres de 1 et de 2 rois. Dieu les utilise pour rappeler aux rois leurs responsabilités. Alors, à l'intérieur de ces livres-là, on a les ministères à la fois d'Élie et d'Élisée. Ça serait deux choses très intéressantes à étudier, la vie de ces deux hommes-là et le rapport qu'ils ont eu avec et l'influence qu'ils ont eue sur leur peuple respectif. On sait que des fois, Dieu envoie des messagers, mais que le peuple a la tête très dure et il n'écoute pas. Et à quelque part, quand le peuple n'écoute pas, Dieu envoie ses jugements. Donc, le but principal de Deux Rois, les livres des rois sont une vue prophétique de l'histoire d'Israël. Les livres répondent à la question: pourquoi Dieu a-t-il permis qu'Israël soit exilé et déporté chez des nations ennemies? Donc, pour le nord, Israël était déporté en Assyrie, et pour le sud, Juda était déporté à Babylone. Alors, pour bien comprendre cette question, nous devons réviser succinctement l'histoire d'Israël. Donc, après la mort de David, Salomon devint son successeur. Son royaume expérimenta la paix et la prospérité. Puis, il montra des signes de rébellion. Le royaume fut alors divisé en deux. Israël avec 10 tribus au nord et Juda avec 2 tribus au sud, donc Juda et Benjamin. Le royaume du nord suivit Jéroboam et établit sa capitale en Samarie. Quand on lit le livre du Nouveau Testament, on oublie parfois que ce qui se passait à l'époque de Jésus, c'est des conséquences de ce qui s'est passé des longtemps avant. Quand on parle de Samarie, on sait que la Samarie avec les Juifs, ça ne fonctionnait pas. Tout est historique, hein, dans le fond. Alors, le royaume du sud suivit Roboam, fils de Salomon, et établit, lui, sa capitale à Jérusalem, la cité de David. Donc, l'histoire des deux royaumes est remplie de rébellions, de luttes internes, d'abus, de convoitises et d'idolâtrie. Même les bons rois de Juda démontrèrent leurs limitations. Les ministères d'Élie et d'Élisée servirent à démontrer l'état spirituel des deux royaumes tels que représentés par leurs rois. Israël, le royaume du Nord et sa capitale Samarie, tomba aux mains des armées assyriennes en 722 avant Jésus-Christ. Les 10 tribus d'Israël furent alors dispersées à travers l'empire assyrien. Même si Dieu protégea Jérusalem, le royaume du sud devint faible. Après quelques générations, en 586, le puissant empire babylonien le conquit et le détruisit, incluant Jérusalem et son temple. Israël avait été averti des conséquences de leurs infidélités. Dans les écrits des prophètes Ésaïe et Jérémie, nous constatons les avertissements et les jugements de Dieu. Nous voyons également que Dieu révèle qu'il demeurera fidèle malgré les manquements graves du peuple et qu'il accomplira ses promesses. Dans le livre des Rois, nous voyons un genre différent de prophétie. C'est une prophétie qui prédit plutôt que de dire les avertissements et les jugements. Le livre est aussi prophétique parce qu'il nous enseigne comment Dieu contrôle la destinée des nations dans le monde, s'en sert souvent comme des verges pour chantier. Très intéressant de garder ça en mémoire avec ce qui se passe aujourd'hui. Si on ne fait pas ça, à quelque part, on manque le bateau. Alors, j'ai mis le plan du livre. Il y a deux plans. Il y a un plan succinct qui est un plan résumé, on pourrait dire. Alors, je vous laisse regarder ça. C'est bon quand vous allez étudier le livre de Deux Rois ou quand vous en commencez la lecture, de regarder ça et essayer de vous rentrer ça le plus possible dans le cerveau en lisant le livre. Ça va vous aider à comprendre. Et ensuite, vous avez un autre plan qui est celui qui est à la page 6. Donc, je pense que le plan, lui, nous montre qu'il y a un thème à l'intérieur du livre. C'est celui-ci: le péché volontaire entraîne une fin malheureuse. Si vous regardez l'ensemble du livre, vous allez voir que quand le peuple pêche malgré les avertissements, il y a toujours des fins malheureuses qui suivent ça. Ça n'a pas changé. C'était ça à l'époque, c'est encore ça aujourd'hui. Alors, je vous laisse regarder les plans aussi. Donc, quelque part, ça peut vous aider quand vous allez faire une première lecture ou que vous voulez étudier le livre de façon plus approfondie. Donc, à quelque part, il y a des thèmes. On est rendu au quatrième point. plusieurs thèmes à l'intérieur du livre, les thèmes majeurs. C'est sûr que quand on prend un livre comme ça, avec le nombre de chapitres qu'il y a, il y a bien plus que 5, 6, 7 thèmes, là. Il y aurait une multitude d'études sur plein de sujets, mais dans le fond, il y a des thèmes majeurs. C'est des choses qu'on parle durant tout le livre. Donc, les deux principaux thèmes des livres 1 et 2 rois sont la royauté, quelle influence ça a sur le peuple, à la fois politiquement, militairement et spirituellement, et aussi l'alliance. Donc, on va commencer par la royauté humaine. Donc, les livres des rois ne regardent pas la monarchie des hommes comme étant mauvaise en soi. Ils montrent plutôt que lorsque les rois humains prennent leur autorité et leur leadership sous le parapluie divin, ils ont du succès. Les rois, comme les autres membres de la famille de Dieu, doivent demeurer sujets de l'alliance de Dieu. Leur règne doit être basé sur leur connaissance et leur soumission à la Torah de Dieu qui contient ses instructions. On le voit dans Deutéronome 17, versets 14 à 20. Les livres des rois démontrent des échecs des rois à guider Israël et à vivre comme le peuple de Dieu. Les échecs des rois produisirent les résultats suivants. Un peuple divisé. Un pays corrompu, une adoration corrompue, un abus des personnes faibles et une confiance dans les moyens militaires. Voilà les symptômes d'une grande maladie spirituelle. Cela amena Élie à se demander s'il était le seul à suivre fidèlement le Seigneur. Imaginez-vous quand vous êtes un prophète, puis que le prophète y est rendu, qui pense qu'il est tout seul qui sert le Seigneur. Ça veut dire qu'ils voyaient le peuple comme étant vraiment là, en dérapage, comme on dit. C'est grave quand on pense à ça. Le Seigneur lui a dit, non, t'es pas tout seul, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais qu'il était rendu que lui-même, comme prophète, observait le peuple et se disait, coudonc, Seigneur, je suis rendu tout seul, qui te suit? Hey, c'est aggro le peuple d'Israël. Donc on a la royauté humaine et la royauté divine. Dieu, on le sait, est le grand roi. Il est au-dessus de tous les rois de la terre et le Seigneur de toute la création. Comme le propriétaire de l'univers, Dieu donna une terre à Israël. Dans ce pays, Dieu pourvut à tous les besoins de ce peuple. Il dirige et guide son peuple par sa Torah. Le grand roi envoya aussi des jugements sur les nations et aussi sur Israël. Dieu châtia Israël et Juda pour leurs infidélités. Dieu utilisa l'Assyrie et Babylone comme des instruments en permettant qu'Israël et Juda soient déportés comme châtiment de leur désobéissance. Ils étaient dans leur pays, c'était un peu comme si nous autres... On serait attaqué militairement, puis qu'ils nous prendraient et nous enverraient dans un pays étranger. Là. Une langue étrangère, une culture étrangère. C'était vraiment des jugements du Seigneur. Alors, le roi dans la terre promise. Dieu démontre sa fidélité en demeurant présent dans le pays d'Israël. Le temple construit par Salomon à Jérusalem était un rappel que Dieu exigeait une adoration exclusive. Donc, il ne devait pas y avoir d'idolâtrie. Donc, le thème aussi du Messie. Dans le message prophétique de l'Ancien Testament, le jugement n'était jamais le dernier mot du Seigneur. Dieu pourvoit toujours à donner des mots d'espérance pour le bonheur de son peuple. Le thème de la rédemption demeure malgré les péchés du peuple. Dieu avait promis à David que ses descendants régneraient sur Israël pour toujours. On avait ça dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. Alors, l'exil de Juda semblait avoir brisé cette promesse. Cependant, le livre se termine par un message d'espoir sur la fidélité de Dieu à ses promesses. 2 Rois, chapitre 25, verset 27 à 30. la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, la 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvu constamment en son entretien journalier tout le temps de sa vie. Voyez-vous, le roi est rendu dans le pays étranger, mais le Seigneur a quand même eu de la miséricorde pour lui. C'est pas parce qu'il ne méritait pas d'être rendu là, là. Mais on voit la bonté du Seigneur qui s'exprime à l'intérieur de tout ça. Alors, Joachim était un descendant de David et il a repris sa liberté sur la fin de sa vie jusqu'à un certain point, là, et il fut pourvu à tous ses besoins durant tout le temps de sa vie. Donc, la promesse et l'espérance demeuraient donc valides. L'autre terme qui est présent dans le livre, c'est celle de l'alliance. Donc, les livres des rois nous montrent que Dieu demeure fidèle à son alliance. Pour Israël, la fidélité à l'alliance aurait consisté à obéir et à adorer selon les instructions données par Dieu. L'obéissance leur assurait des bénédictions, tandis que la désobéissance leur amenait des jugements et des châtiments. Parmi les malédictions, il y avait celle-ci. Deutéronome, chapitre 28, verset 36 et verset 103 à 106. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et verset 103, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. De même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi et tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Pas qu'il ne l'avait pas prévu. Il leur dit tout ce qui était pour se passer plus tard s'ils désobéissaient. Alors, les exils et les déportations d'Israël en Assyrie, en 622 avant Jésus-Christ, et aussi Juda, lui, qui a été déporté à Babylone en 586. Deux dates à retenir, c'est quand on lit l'histoire de l'Ancien Testament. Si vous retardez, gardez ces deux dates-là, vous allez voir que ça va vous aider à placer à la fois les prophètes et à comprendre l'histoire d'Israël. La déportation d'Israël au nord, en Assyrie, et la déportation du sud à Babylone. Et on voit qu'il y a une petite différence. Le royaume du nord est allé en Babylone plus vite que le royaume du sud. Donc, à l'intérieur du livre, il y a quelques personnages clés. Élisée, qui est un personnage extraordinaire à étudier. Alors, il a été le disciple d'Élie. Il a continué son puissant ministère dans le royaume. Très intéressant parce qu'il y a une chose à l'intérieur de son ministère. Il avait demandé d'avoir le double des bénédictions d'Élie parce qu'il voulait. Et le Seigneur, quand tu étudies son livre en détail, tout dans sa vie a été le double de l'autre. C'est vraiment extraordinaire. Hein? Parce que des fois, on lit et on remarque pas ça, mais quand on se met à le remarquer, c'est là que ça devient extraordinaire. Tu as aussi le personnage d'Akab. Alors, lui a été le 8e roi d'Israël. La Bible décrit son règne comme étant méchant. Il permit le culte de Baal et de s'enraciner en Israël. Et il s'est opposé activement à Élisée. Tu as aussi le personnage de Naaman, le lépreux. Je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage-là. Il était un général de l'armée syrienne. Il souffrait de la lèpre et vint chercher la guérison auprès d'Élisée. Naaman démontra le genre de foi que les Israélites auraient dû avoir. Voyez-vous, il était d'un étranger, mais il avait plus de foi que les Israélites eux-mêmes. Tu avais Jézabel, qui est un personnage, on en parle dans l'Apocalypse, une reine méchante qui faisait la promotion du culte de Baal. Elle avait voulu assassiner Élie. On a le personnage d'Ézéchias, qui était le 13e roi de Juda, et qui a écouté les conseils du prophète Isaïe. Lui a demeuré fidèle à Dieu, et il a reçu la paix et la sécurité pour son royaume. Il y a aussi le personnage de Manassé, fils d'Ézéchias. Son règne fut infidèle et méchant. Moi, je me souviens, je vous raconte ça comme ça, la première fois que j'ai lu l'histoire de Manassé, j'ai pleuré. Parce que c'est un homme qui était méchant toute sa vie, et le Seigneur l'a sauvé. Manassé, à la fin de sa vie, il s'est repenti, puis le Seigneur lui a pardonné. Ça dit dans les Écritures qu'il était le roi le plus méchant, qui aimait. Vraiment, extrêmement. Alors là, on voit la grâce de Dieu là-dedans. Quand on s'arrête à voir ça, c'est de toute beauté. Alors, il y avait aussi Sanchérib, qui était le roi d'Assyrie en 722. Il réussit la conquête et la destruction de Samarie, alors capitale du royaume du Nord. Et on a aussi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, qui est devenu l'instrument de Dieu pour punir Juda. Durant les années 580, il conquit Juda et détruisit éventuellement Jérusalem et son temple. Il y a tous ces personnages-là qu'on pourrait faire une étude très approfondie, mais on fait juste nommer que tout ça, c'est dans le livre de Deux Rois. Les versets clés, on a dans Deux Rois, chapitre 17, versets 13 à 15, « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que je vous ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, ils roidirent leurs coups comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leurs pères et les avertissements qu'on leur avait adressés. Ils allèrent auprès des choses de néant, ils ne firent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. » Deux Rois, chapitre 19. Alors, c'est des versets clés parce que ça nous montre un peu l'esprit de tout ce qu'il y a dans le Deux Rois. Dans Deux Rois 19, versets 14 et 15, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il y avait des moments de réveil, comme ça. Il y avait un moment donné qui allumait, comme on dit. Alors, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors. Le livre des rois illustre la fidélité de Dieu, ses promesses. La fidélité de Dieu comporte deux facettes. La positive, dans laquelle Dieu bénit la fidélité du peuple, et la négative, dans laquelle il punit et châtie Israël pour sa désobéissance, sa rébellion et son idolâtrie. Dieu offre cependant de l'espoir et fait des promesses que son plan pour racheter les élus s'accomplira. Ça, c'était pour le peuple de Dieu. D'alors, le peuple de Dieu d'aujourd'hui, les livres des rois défient les croyants d'être obéissants et fidèles. Cependant, c'est un défi encore plus grand pour le peuple de Dieu d'avoir une confiance absolue en son Dieu. Avoir confiance doit se manifester en tout temps et dans toutes les circonstances. La confiance se développe avec le temps, requiert du travail sur soi et se doit d'être exercé quotidiennement. Apprendre à avoir confiance en Jésus comme le grand roi signifie que les valeurs du royaume de Dieu affecteront tous les secteurs de notre vie. Alors, la place et la présence de Jésus-Christ, la promesse que Dieu fit à David d'avoir continuellement un descendant sur le trône d'Israël, est la base historique et théologique de la venue du Messie qui unifierait le peuple de Dieu, les rachèterait et les réconcilierait avec Dieu. Cette promesse fut accomplie en Jésus, le Messie, qui sauva les élus d'Israël et du monde. Trois applications rapides. Le livre de Deux Rois a énormément à nous apprendre sur la conduite des rois. Leur conduite d'obéissance ou de désobéissance nous enseigne jusqu'à quel point leurs actions eurent des conséquences très importantes sur leur propre vie, mais également sur tout le peuple de Dieu. Ce livre doit être lu dans un esprit de prière pour que Dieu nous sonde et nous montre notre degré de fidélité à ses lois. Deuxième application, Dieu, contrairement aux hommes, est toujours fidèle. Il accomplit infailliblement ses promesses. Il mènera son alliance à terme. Nous devons toujours prendre ses avertissements au sérieux. Troisième et dernière application, certains personnages de ce livre nous montrent qu'il est possible de demeurer fidèle, même au milieu de l'apostasie ambiante, comme par exemple les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, aussi les bonnes actions des rois et la conduite exemplaire des prophètes Élie et Élisée. Des leçons très importantes pour nous aujourd'hui parce qu'on vit dans l'apostasie. Et ça nous montre que c'est possible de vivre fidèle au Seigneur, même dans les circonstances les plus difficiles. On est droit dedans. N'oublions jamais que les histoires de l'Ancien Testament nous ont été données pour nous servir d'exemple et d'instruction. Implorons l'Éternel pour que nous soyons attentifs à ces choses, par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.